Chapitre 13. Quelques conséquences remarquables du dogme de la transsubstantiation. À partir du jour de mon ordination, j'étais obligé de croire que j'avais le pouvoir de changer tous les pains et biscuits des différentes boulangeries de Québec en autant de corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'étudiais la théologie au séminaire de Nicolet, j'avais plus d'une fois entendu notre savant supérieur nous raconter qu'un prêtre avait un jour, à Paris, été condamné à mort. Pour se venger, il avait, en se rendant à l'échafaud, consacré tous les pains des boulangeries devant lesquelles il avait passé, en sorte que cette partie de la capitale de la France se trouvait sans pain, les boutiques des boulangers ayant été changées en autant de saints tabernacles qui ne contenaient plus que le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. J'étais obligé de croire, sous peine de damnation éternelle, que cela était possible. Vers le 15 janvier 1834, j'ai entendu raconter l'histoire suivante par M. l'abbé Paquette, curé de Saint-Gervais, pendant un grand dîner auquel assistaient bon nombre de prêtres. Lorsque j'étais jeune prêtre, on me nomma vicaire d'un curé qui mangeait comme 5 et buvait comme 6 d'entre nous. C'était un véritable géant. Plus d'une de ses chères brebis apportait sa marque, car son terrible poing frappait juste et sa colère était celle d'un lion, surtout après le dîner, où il ne vidait jamais moins de 2 ou 3 bouteilles de bon vin. Un jour qu'il avait donné un grand repas au curé du voisinage, pendant qu'il était encore à table, on vint le chercher pour porter le bon Dieu à un mourant. C'était à l'époque la plus rigoureuse de l'hiver. Le froid était extrême. Il y avait de 3 à 4 pieds de neige sur la terre. Les chemins se trouvaient dans un état affreux et c'était réellement une rude besogne que de faire 9 ou 10 milles par un temps et des chemins pareils. Mais il fallait marcher. C'était un marguillier même qui était venu le chercher et le malade était d'un des hommes les plus influents de la paroisse. Après quelques murmures, le curé appelle le marguillier et il boit avec lui un verre d'excellente Jamaïque comme préservatif contre le froid. Il va ensuite à l'église pour chercher le bon Dieu et se jette dans la carriole où il se cache de son mieux sous les peaux de buffle. Quoique le marguillier eût attelé 2 forts chevaux, l'un devant l'autre, pour mieux traîner la carriole, la route était longue et ennuyeuse. Mais elle le devint bien plus encore par suite d'un accident imprévu. Il n'était pas encore à la moitié du chemin qu'ils se virent tout à coup arrêtés par un autre voyageur qui venait dans la direction opposée. Les chemins d'hiver étaient alors trop étroits pour permettre à 2 voitures de se rencontrer sans courir le risque de plonger dans la neige, se renverser et de se briser. Il faut une grande prudence et beaucoup d'habileté pour faire ces rencontres sans accident. Car une fois le pauvre cheval enfoncé dans la neige molle, plus il s'agite, plus il augmente le danger. Le marguillier, espérant que le bon Dieu qu'il portait allait le faire sortir des difficultés de cette rencontre inopportune, semble d'abord ne pas beaucoup s'en occuper. Se levant debout dans sa carriole, il crie, d'une voix de stentor et avec un ton de suprême autorité, « Holà ! Clairez le chemin ! Je porte le bon Dieu ! Mettez-vous à côté ! Vite ! Vite !» Par malheur pour lui, l'étranger qu'il rencontrait était un hérétique qui s'occupait bien plus de son cheval que du bon Dieu du marguillier. Il lui répondit sur un ton encore plus élevé. « Le diable emporte ton bon Dieu avant que je consente à casser le cou de mon cheval dans la neige. Si ton bon Dieu ne t'a pas appris les lois du pays et les règles du bon sens, je vais te les montrer à bon marché. » Et, sautant hors de sa voiture, il saisit par la bride le premier cheval de l'équipage du curé et le fait avancer doucement sur le bord du chemin, de manière à ce que chaque voiture pût avoir la moitié du chemin et passer sans accident. Mais le marguillier était un homme vif et emporté, et ses mauvaises qualités étaient devenues 10 fois pires par suite de la boisson que le curé lui avait donnée. Il saute aussi hors de sa voiture, se précipite vers l'étranger, le saisit à la gorge avec sa main gauche et lève la droite pour le frapper. Mais l'hérétique, prévoyant sans doute ce qui allait arriver, avait ôté son pardessus et se trouvait par conséquent beaucoup plus libre que son agresseur. C'était de plus un vrai colosse par la grandeur et la force. Plus vite que l'éclair, il fait tomber ses 2 poings comme 2 massues de fer sur la face du marguillier et le culbute dans la neige où il le suit pour le frapper de nouveau sans pitié. Le curé était resté jusque-là spectateur passif du combat, mais la vue de son marguillier, que l'infâme hérétique meurtrissait le coup, sans qu'il pût se défendre, réveilla son énergie un peu assoupie par la bouteille de Jamaïque vidée au départ. Il se lève tout d'un coup, détache le bon Dieu suspendu sur sa poitrine et le dépose sur le siège de la carriole en disant « Mon cher bon Dieu, tout ce que je vous demande, c'est de rester neutre. Laissez-moi faire, je vais punir ce maudit protestant comme il le mérite. » Mais avant qu'il eût pu secourir son marguillier, celui-ci était déjà à moitié mort. Son visage n'était qu'une plaie. Trois dents étaient cassées, la mâchoire inférieure déboîtée et ses yeux tellement pochés qu'il resta plusieurs semaines sans voir clair. La neige était rougie de son sang, comme si un boucher y eût égorgé un bœuf. Lorsque le protestant vit que le prêtre s'approchait pour le forcer à un nouveau combat, il jeta bas son dernier habit afin d'avoir ses bras plus libres. Le curé n'avait pas été si prévoyant, car non seulement il avait gardé son gros capot, mais il n'avait pas même ôté son grand surplis blanc, qui le couvrait comme un linceul. Se fiant à sa force herculéenne, il tomba sur le voyageur comme une grosse roche qui roule de la montagne sur le chêne qui lui barre le chemin. Les premiers coups qui furent échangés durent être terribles, car ces deux combattants étaient de vrais athlètes. Mais il est probable que le protestant n'avait pas bu autant que le curé avant de se mettre en route. Peut-être aussi qu'il s'entendait mieux aux terribles joutes qui avaient lieu sur ce grand chemin. La bataille fut longue et le sang qui rougit longtemps cet endroit montra que la lutte avait été acharnée et sans merci. C'était vraiment un étrange spectacle que celui de ces deux hommes qui se frappaient sans pitié et dont les cris furieux n'avaient d'autre témoin que l'ouragan qui grondait autour d'eux. Le bruit de la tempête, les tourbillons de neige que le vent emportait quelquefois comme une épaisse fumée ou qu'il roulait comme des montagnes, les coups redoublés que se donnaient les deux combattants, leurs corps de géants qui tombaient et se relevaient aussitôt pour rouler l'un sur l'autre, le sang qui coulait de larges plaies dont leur figure était couverte, le par-dessus et le surplis du curé qui volait au vent en lambeaux, tout cela formait un si terrible spectacle que les chevaux du marguillier, quoique parfaitement domptés, finirent par être épouvantés. Ils se jetèrent dans la neige, où ils se débattirent longtemps. Ils s'élancèrent ensuite sur la route et eurent bientôt mis la voiture en pièces. Ils arrivèrent à leur écurie avec quelques débris seulement de leur harnais. Évidemment, le bon Dieu avait écouté la prière du curé. Il était resté parfaitement neutre durant le combat. Au moins, il n'était pas venu au secours de son prêtre, car il fut battu et le protestant resta maître du champ de bataille. Après avoir relevé le marguillier du milieu de la neige, où il était presque enseveli, à demi-mort par le froid et la perte de son sang, le curé eut à marcher ou plutôt à se traîner avec lui près d'un demi-mille pour se rendre à la plus proche habitation où il n'arriva qu'à la nuit. Mais voici le plus triste de l'histoire. Vous vous rappelez que le curé avait mis le bon Dieu sur le siège de la carriole avant de s'engager dans cette terrible lutte. Or, les chevaux, après avoir traîné la voiture pendant quelque temps, finirent, comme je vous l'ai dit, par la renverser et la briser. Le porte-Dieu fut donc perdu dans la neige. Et ce fut en vain que des centaines d'hommes le cherchèrent à plusieurs reprises pendant l'hiver. Tous les efforts pour le retrouver furent inutiles. Vers la fin de juin, un petit garçon aperçut le long du chemin une guenille à moitié cachée dans la boue d'un fossé. L'ayant retirée de la vase, il ne fut pas peu surpris d'en voir tomber une petite boîte d'argent. Il se douta que c'était le précieux trésor perdu par M. le curé dans la grande tempête de janvier et si inutilement cherché par tout le peuple. Il l'apporta donc au presbytère. J'étais là, présent, quand le curé l'ouvrit. Nous espérions que le bon Dieu y serait intact et que, par quelque miracle, il se serait protégé contre les rigueurs des éléments. Mais quel ne fut pas notre désappointement en ne retrouvant au fond du petit vase d'argent qu'une boue infecte, le bon Dieu était fondu. Pendant le récit de cette histoire, les prêtres avaient fait de nombreuses libations, comme c'était l'usage alors, et ils avaient ri de bon cœur. Mais lorsque le dénouement arriva et que le curé de Saint-Gervais, avec l'accent du plus parfait comique, laissa tomber ces mots, « le bon Dieu était fondu », ils poussèrent un éclat de rire tel que je n'en ai jamais entendu depuis. Tous les convives, égayés par le champagne, frappaient le plancher de leurs pieds, battaient des mains et criaient, avec des rires indescriptibles. « Le bon Dieu fondu, le bon Dieu fondu !» Oui, le Dieu de Rome, perdu dans la boue d'un fossé par un de ses prêtres ivres, était bien réellement fondu. Et ce triste accident était proclamé avec de violents éclats de rire par d'autres prêtres autour d'une table couverte de bouteilles de vin qu'ils venaient de vider.